Québec se lève. La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh, que oui, le Sieur de Terrien, comment vas-tu?
Ça va super bien, et vous, cher Paul Raphaël?
Ben, ça va bien parce que on fait vraiment dans le prestige ce matin et oui. C'est tout à fait en phase avec la mission de l'émission de rester toujours dans le prestige. C'est que là, la semaine passée, il était tellement question de tramway depuis un bout de temps qu'on s'est dit, ben, c'est le temps. On y va, on fait l'histoire, la petite histoire du tramway de Québec, évidemment, parce qu'il y avait eu le tramway avant, qui avait été retiré. Bon, il fallait être là en fin de semaine passée. Et là, on s'est dit, ben, on va rester à peu près dans la même veine. Donc, on reste dans le transport.
Exact.
Il est toujours question, depuis un bout, de troisième lien. Attention, on va pas vous dire, hey, moi, je suis pour. Ah non, moi, je suis contre. Non. On vous parle de l'histoire, de la circulation entre Québec et Lévis. Finalement, c'est un peu ça, François.
Oui, c'est exactement ça, parce que de tout temps, le fleuve Saint-Laurent était un obstacle de taille pour la circulation entre les rives nord et sud de Québec. Puis pas juste pour les circulations entre les rives, là, mais la circulation tout court. Là, c'est une voie navigable capricieuse, le Saint-Laurent. Puis encore aujourd'hui, la connexion de Québec et Lévis, ça demeure un défi. Alors, je vous propose la petite histoire des liens. Des liens.
Oui.
Parce qu'il y en a beaucoup entre les deux rives de la région de Québec. Souvenez-vous, je vous ai parlé de Guillaume Couture, le premier sieur de Lévis, qui s'est installé là en 1647, 39 ans après que Champlain ait fondé Québec. Alors, avant qu'il y ait des gens qui demeurent du côté sud, les traversées étaient pas c'était pas nécessaire.
Le traversier était vide tout le temps.
Oui, c'est ça, il se passait pas grand-chose avec le traversier. Mais les premières traversées se font en barque, en canot ou en chaloupe. Mais très tôt, les premiers ponts de glace apparaissent dans les écrits de certains personnages clés de la Nouvelle-France. La première mention en est faite en 1633 par le père Lejeune, et ces mentions vont se multiplier jusqu'à la fin de l'histoire de la Nouvelle-France. Au 19e siècle, le canot à glace fait son apparition et permet de faire traverser le fleuve aux gens et à divers produits qu'on avait besoin sur une rive ou sur l'autre, lorsque le pont de glace n'était pas complètement pris, parce que ça prenait du temps. Puis en plus, à Québec, il y a l'effet des marées. Alors avant qu'il y ait assez de glace pour que même les marées n'aient plus d'emprise sur ces glaces-là, puis que ça fasse un beau pont, qu'on puisse faire une voie carrossable pour les chevaux, pour les traîneaux, etc. Des fois, ça prenait du temps, puis il y a des hivers où ça prenait pas. Puis des fois, ça prenait, puis ça durait pas longtemps. Alors, le pont de glace, là, c'était pas la panacée en hiver. Là. Le canot à glace permettait de faire des traversées lorsque il y avait encore de l'eau, puis des glaces qui circulaient. Les premiers traversiers à vapeur seront mis en service en 1818. Puis à cette époque-là, il y avait plusieurs compagnies qui offraient le service. Un peu là, comme le tramway puis les autobus dans le temps. Là.
C'était privé.
C'est ça, c'était privé. Puis telle compagnie offrait la liaison entre telle ville puis telle ville. Mais eux autres, il y avait chacun leur quai. Alors, le long du fleuve, il y avait plusieurs quais. Puis prenais le traversier que ça te tentait de prendre. Dépendant où tu demeurais ou où tu allais, j'imagine. Alors, il y en avait plusieurs qui faisaient ça. Le principal quai a longtemps été à Lens, à Tibitz, à Lévis. Et du côté nord, à Lens, au Foulon, à Québec. Et les vestiges de ces quais sont encore visibles aujourd'hui, surtout dans la partie nord, là.
Ça a l'air qu'à l'époque, le fagotier fonctionnait correctement. Jusqu'à un moment donné, il s'est mis à vieillir. Puis là, rendu en 2020, ça marchait plus, mais...
Mais c'est ça, c'était là que ça se passait. Puis c'est seulement au début des années 1910 que le traversier Québec-Lévis va s'installer à l'endroit où il est. Maintenant, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Puis il y a eu des traversiers aussi loin que Sillery et Saint-Romuald. D'ailleurs, Saint-Romuald s'appelait New Liverpool à l'époque.
Mais quand tu regardes sur Google Maps, là, tu te promènes, puis il y avait le manoir Liverpool. Là. Quand tu regardes sur Google Maps, il y a encore un endroit où c'est écrit New Liverpool, puis il y a d'autres noms bien bizarres de paroisses, ou je ne sais pas trop, là, qui portent encore. Il y a des vestiges de ce nom-là.
C'est ça. Puis c'était un nom. New Liverpool, c'est plus un nom usuel pour ce coin-là.
Non,
c'est Saint-Romuald. Mais à l'époque, c'était ça. Alors, tu t'en allais à New Liverpool. Tu prenais le traversier au quai de Sillery ou à peu près, puis tu t'en allais à New Liverpool. Il y en avait jusque-là.
Ah, mais tu sais, tes enfants sont pas allés au Juvena de New Liverpool, justement. Non, c'était pas ça. Excuse-moi, je me trompe.
L'arrivée du train. Ça, c'est important parce que le train arrive à Lévis en 1854, puis ça va changer la donne complètement. La voie ferrée qui traverse le Canada de part en part traverse par la rive sud et pas sur la rive nord. Donc, le développement de Lévis à partir de 1854 ou à peu près va considérablement s'accélérer grâce à son passage. D'ailleurs, la traverse principale suit le train. Parce qu'au départ, la gare de train à Lévis est installée à l'anse à Tibitz, là où est le traversier à ce moment-là. Puis, à un moment donné, elle se déplace plus à l'est, là où on retrouve le traversier maintenant. La gare s'est déplacée, avec le traversier, il s'est déplacé lui aussi. Puis, en 1912, c'est à ce moment-là qu'on a creusé un quai à eau profonde. Là, on l'a avancé dans le fleuve un peu pour que des traversiers à plus grand débit, là, qui puissent prendre plus de matériel et de gens, puissent s'amarrer. Alors, c'est en 1912, dans le fond, qu'on retrouve le traversier au quai actuel qui a été reconstruit depuis, évidemment. Là, mais c'est à ce moment-là qu'il s'est installé. Là, on retrouve la traverse moderne Québec-Lévis.
Donc, à l'époque, donc début des années 1900, il n'y a encore aucun pont.
Non, il n'y en a pas encore. Mais là, c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire « Ouais, le train, Lévis se développe solidement. Nous autres, on n'est pas connectés à cette voie ferrée-là, à Québec. » Alors là, il commence à s'élever des voies pour dire « Ça serait une bonne idée qu'on se connecte. Il n'y a pas 36 solutions. Ça va prendre un pont. » Je vous avais parlé de Frank Carrel. Oui. Il y a plus qu'une voie de dessert.
Plus qu'une voie de dessert.
Ça a été un des premiers qui a poussé, là, qui a fait un éditorial dans son journal à l'époque. Il a dit « Hey, si le Québec veut suivre économiquement, faut être lié à la voie ferrée qui traverse le Canada. Donc, ça prend un pont. » Ça, vers des années 1890, là, ça commence à germer. Puis, finalement, on va construire le pont de Québec. Ça va prendre du temps parce qu'il va être, inauguré en 1917. Puis, il faut attendre 1929 avant qu'il y ait une voie pour les voitures sur le pont de Québec.
C'était juste le train.
Dans le fond, le pont de Québec, là, c'était uniquement pour le train. On parlait pas de traverser des gens par le pont. De toute façon, là, il était aux antipodes, le pont de Québec, quand on pense à Québec puis Lévis à l'époque, là, il est loin. Alors,
c'est
là,
ça.
Là.
L'activité économique se passe à hauteur du traversier, finalement.
C'est ça. Alors, voyez-vous, mais là, il fallait traverser de l'autre côté pour que le train puisse se connecter à Québec. Puis, à cet endroit-là, ben, le fleuve est très, très étroit.
C'est ça.
Alors, on a décidé de le construire là. Pour les trains, c'était parfait. Donc, 29, les voitures commencent à circuler sur le pont. Puis, dès la fin des années 40, là, c'est évident, le pont de Québec va atteindre très, très vite son point de saturation. Et on commence à parler d'un deuxième lien.
Oui.
Ça va en prendre un deuxième.
Ça s'appelle aujourd'hui le pompier à la porte, mais à l'époque, il y a eu une chicane deuxième lien, là. C'est sûr qu'il y a une chicane deuxième lien.
Voyez-vous, au départ, il y avait une seule voie de circulation sur le pont de Québec, puis dans les années 40, on en rajoute une autre. Mais même à ça, ça n'a pas changé grand-chose. Puis avec l'explosion de l'automobile dans les années 50, ben là, ce deuxième lien devient urgent. Mais qu'est-ce qu'on fait comme deuxième lien? Un pont? Un tunnel? Puis on le met à quel endroit? Ça a été la grande question. Ouais. C'est en 1961 que le gouvernement de Jean Lesage prend la décision de construire un second lien entre les deux rives de la région de Québec. Puis il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table. Et un tunnel entre Limoilou et le centre-ville de Lévis est défendu à l'époque par le Bureau de l'Industrie du Commerce du Québec Métro. On estimait les coûts de ce tunnel-là, là, on est à fin des années 50, début des années 60, à 32 millions de dollars à l'époque. Ce qui veut dire 263 millions en dollars d'aujourd'hui.
Hein? Ça n'aurait jamais coûté ça?
Vous allez voir, parce que le pont La Porte a quand même coûté cher à l'époque. Là.
Ouais.
Alors, c'est sûr que les coûts auraient explosé, puis ça n'aurait jamais coûté 32 millions. Là. Ça aurait été beaucoup plus cher que ça. Mais justement, pour des raisons économiques, on a décidé de privilégier l'idée d'un pont. Puis on l'a installé tout juste à côté du pont de Québec, parce que c'était l'endroit où le fleuve était le moins large, donc ça coûtait le moins cher. Mais l'idée de le faire à partir d'un point situé quelque part entre la citadelle et le quai de Sillery a aussi été effleurée, mais finalement on l'a abandonné. Mais imaginez-vous un pont qui traverse là, qui rentre en pleine ville. Là,
ça aurait donné à hauteur de...
Si on parle du quai de Sillery, c'est la côte Maguire. C'est la côte Maguire. Mais sinon, si on se rapproche vers la citadelle...
La ville, non, mais tu réalises à quel point la ville aura un visage complètement différent. Là. Ça arrive à la Côte-Maguire, là, tu sais, ça n'a rien à voir pantoute. Imagine le trafic qu'il y aurait là.
Ça aurait été
la ville se serait développée. Ça se serait surtout développé différemment, là, tu sais, mais ça serait weird. Hein.
Là, on est en quelle année, François?
Là, on est autour de 1960.
Parce que j'ai retrouvé dans mes vieux journaux du Soleil de 1951. Il était question à ce moment-là d'un lien entre la route de Saint-Henri, donc président Kennedy, Et ça arrivait là dans le bout de la place Duville pour aller rejoindre le tunnel qui était à cet endroit-là. C'était dans les scénarios pour un autre lien dont il était question, qui aurait été dans le fond le pont, puis après ça, tu rentres dans le tunnel. Et à ce moment-là, on disait, ouais, ben là, il faudrait arrêter les guéguerres de territoire puis se mettre à travailler ensemble. T'avais l'impression de lire un texte de 2021, là.
Mais c'est bon, ça. Moi, je l'avais pas vu, ce texte-là, mais vous allez voir que par la suite, là, ce scénario-là revient dans les cartons. Parce que, bon, on a décidé de faire le pont, la porte qui devait s'appeler Frontenac, à l'endroit où il est aujourd'hui. La construction démarre en juin 1966 et le pont sera inauguré le 6 novembre 70 et ouvert à la circulation le lendemain. Évidemment, c'est l'assassinat de Pierre Laporte là quelques semaines avant l'inauguration du pont qui a convaincu Robert Bourassa de le renommer. Le nouveau pont, le pont Laporte, a coûté 50 millions. N'oubliez pas que je vous parlais, l'idée d'un tunnel entre Limoilou et le centre-ville de Lévis, ça supposait être 32 millions une dizaine d'années avant. Pour un tunnel. Alors, c'est clair que ça aurait explosé, puis ça aurait coûté sûrement plus que 50 millions de dollars. Là. Alors, je pense qu'on a bien fait, économiquement parlant, de faire ce qu'on a fait. Et la peinture est à peine séchée sur le pont Laporte que l'idée d'un troisième lien est déjà dans les cartons. Et c'est là que l'idée d'un tunnel refait surface. Là. Parce qu'au tournant des années 60 et 70, le réseau autoroutier se développe à vitesse grand V au Québec. L'autoroute 20, là, si vous posez des questions, c'est au début des années 60. Alors là, on s'est aperçu que palais, là, il va en avoir de l'automobile. Puis on pensait que le pont Laporte allait atteindre son point de saturation au début des années 80. Alors, ça n'a pas été très, très long, là. Dès le début des années 70,
on a eu raison.
Ouais,
ben, il s'est saturé plus tellement longtemps, le pont Laporte.
À quelque part, là. Mais à l'époque, les maires Lamontagne à Québec et Chagnon à Lévis travaillent de concert, puis ils veulent un troisième lien qui relie cette fois les centres-villes. Là. L'idée d'un tunnel revient. Puis les premières études, les deux premières études sont réalisées en 1973 et 74 et confirmaient la possibilité d'un lien sous-fluvial entre Québec et Lévis. On pensait le faire passer quelque part entre la baie de Beauport et Lévis à ce moment-là. Puis on avait même réservé un numéro pour ce futur lien routier, le 520.
Ah,
ça
oui.
A été la route 520.
Mais là, 520, tunnel. C'est pas Robert Bourassa?
Non.
540.
Ah, 540, oui, 540.
Alors, ça aurait été le 520, ce lien-là. Puis en 1979, il y a un nouveau rapport qui recommandait de faire passer ce tunnel-là sous l'île d'Orléans. On commence à se rapprocher des projets d'aujourd'hui. Toutefois, dès 1973, les élus regardent ça et ils disent « Ouais, un tunnel, ça va coûter cher. » Peut-être plus un pont. Là. Gilles Lamontagne et Vincent Chagnon, là, les deux maires, là, pressent le gouvernement de plancher sur un projet de pont reliant les deux villes à l'est de l'île d'Orléans. Le dossier a traîné en longueur et la crise économique du début des années 80 force la mise sur la glace de ce projet-là. Le troisième lien, version années 70, meurt là, lorsque les taux d'intérêt partent en peur puis que on commence à couper dans la fonction publique, etc. Là, on s'aperçoit que l'État-providence a une limite.
Oui.
Et le projet de troisième lien, ben on connaît la suite maintenant. Il va renaître vers la fin des années 1990. Puis, 20 ans plus tard, on en est encore là.
Si vous avez envie qu'on vous raconte une histoire en particulier qui concerne Québec, Lévis, mais les environs aussi, vous nous envoyez un petit texto tout de suite au 25226 ou bien envoyez-moi un courriel. Mon courriel est facile à trouver là sur le site du FM 93. Moi, je relaie tout ça à François. D'ailleurs, dans la série des vieilles maisons célèbres,
oui.
J'ai de la documentation à t'envoyer. Il va falloir que tu me donnes un courriel pendant la pause. Ma chum qui vient de la maison dans le milieu de la rue. Là,
oui, la rue Plante.
Écoute, j'y ai dit, là, hey Kat, tu m'enverrais-tu? T'as-tu des informations avec vous? Puis je sais qu'elle tripe sur l'histoire, c'est une prof, tu sais, puis ça. Elle m'a envoyé un topo complet. Vraiment, ça, j'ai du stock, François, là, des vieilles images, des documents d'archives sur cette maison-là. Capoté. Les gens de Lévis, vous le savez, c'est la maison, sa rue Plante, là, la maison dans le milieu de la rue. Mais si vous, justement, là, vous êtes vous avez de la documentation sur ces vieilles maisons-là, ça va revenir à un moment donné, le segment.
Oui, certainement,
sur,
on va en faire
sur
un
les
autre.
Vieilles maisons. Et aussi, la série Bien Plus Que.
Oui, je suis en train de plancher sur un, peut-être dès la semaine prochaine. On verra, là. Mais
OK.
Peut-être.
Cette chronique est vivante, mesdames, messieurs. Elle est vivante grâce aux sieurs de Terrien. Elle est vivante grâce à vous et à vos suggestions. Merci, François.
Ça me fait plaisir.
On se reparle la semaine prochaine. François Terrien dit le sieur de Terrien.
Que Québec se lève.